Bienvenue sur Bac FM. Si vous ne savez pas encore quoi faire de votre été, Nadège et Thierry vous proposent de le passer au théâtre Risorius, dans le chapiteau qu'ils ont installé chez eux pour assister à des spectacles qui se dérouleront à Sainte-Paris-le-Châtel, dans leur jardin. Ce sont nos invités du soir. Ils vont nous en dire un peu plus à propos de cet été placé sous le signe du théâtre, mais aussi de leurs spectacles, derrière lesquels il se cache toujours une histoire. Bonjour et bienvenue à vous. Avant de parler de cet événement estival, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le théâtre Risorius ?
On a combien de temps ?
On a tout le temps devant nous.
D'accord, bon bah c'est parti.
Bonjour.
Bonjour. Donc on est né en 1987, à peu près à l'âge où t'es né quoi. Et voilà.
Lequel de vous veut nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce théâtre depuis 1987 du coup ?
Il y a eu plein de choses, hein.
Non, bah, c'est énorme.
Je sais pas, j'ai refait le site là, il y a eu, je sais plus combien de créations, 25 ou 30 créations à peu près. Ouais. Il y a beaucoup de spectacles qui ont été traduits en différentes langues, on a joué beaucoup à l'étranger, on a joué dans plus de 26 pays. On joue en anglais, en italien, en espagnol et en français, puis d'autres langues qu'on a inventées, hein, qui est borborythme. Et puis, c'était une grosse structure, parce qu'on était à peu près entre 10 et 18 personnes salariées. Mmh. Et puis, on a arrêté parce que moi, j'en pouvais plus. Voilà. Enfin, j'en pouvais plus. C'est pas que j'aime pas mon métier, c'est plutôt le rapport de gestion humaine et puis 35 ans, bah, j'ai fait 35 ans en continu de cette façon, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué à l'usage quoi, c'est fatigant et puis on n'y trouve plus vraiment son intérêt quoi, voilà.
Et à sa création, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter ce théâtre ?
Bah, c'est surtout raconter des histoires, parce que j'étais fonctionnaire pendant une période, après bon, j'ai géré d'autres choses aussi. Puis je me rendais compte que les gens, bah, c'était des vies parfois sordides, hein, dans le sens où bah, les gens, à part le matérialisme et puis les histoires sordides de couples, de tout ça, je disais mais comment c'est possible de vivre quand tu as 18 ans, tu vois tout ça autour de toi, tu rentres dans la vie active et tu te rends compte qu'en fait les gens sont pas vraiment heureux quoi. Donc tu te dis qu'est-ce que je peux faire ? Et à partir de là, bah, j'ai commencé à faire du théâtre, mais instinctivement, parce que j'avais pas de formation à l'époque. Et puis j'ai eu la chance de faire un spectacle qui a fait un énorme succès, quoi. Mmh. Et du coup, ben voilà, c'était parti.
Et maintenant, aujourd'hui, donc vous êtes tous les deux à la tête du théâtre Risorius.
On n'est plus que tous les deux, oui. D'accord. Et du coup, on crée les spectacles ensemble, parce que c'est ça aussi, la compagnie du théâtre du Risorius. A toujours été en création de spectacles. Alors ça pouvait être juste du théâtre d'ombre, du théâtre masqué. Après, on a eu une période où il y avait plus de marionnettes aussi avec les véhicules spectacles. Donc c'était et puis une des particularités du théâtre du Risorius aussi, c'était d'être vraiment un théâtre itinérant, mais au sens un peu ancien du terme, c'est-à-dire on
oui,
avait
comme
des...
les cirques voilà. Supposés dans les villes.
On avait un grand chapiteau et un petit chapiteau, ouais. Et on voyageait de ville en ville avec les roulottes, etc.
Puis on aimait bien partir avec les poids lourds, monter les chapiteaux, jouer. Deux semaines, trois semaines sur une ville, voilà. Puis ça ramenait des liens aussi qui étaient vraiment sympas avec les spectateurs. Contrairement à une salle où on va jouer, bon, on est invité, super, quoi. Mais en même temps, on n'avait pas la même relation. Alors qu'avec les chapiteaux, ce qui était intéressant, c'est que bon, t'as les gamins qui viennent te voir après. Comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Ou les adultes hein, qui t'amènent un gâteau ou une couverture parce qu'ils ont froid. Ils pensent que dans les roulottes, on va avoir froid. des choses bah, humaines, quoi. Des relations vraiment humaines très sympas, quoi.
Et vous aviez plus de contact avec le public.
Bah quand on était en itinérance, oui, même à l'étranger, hein, c'est comme on a joué beaucoup à Édimbourg.
Dans les festivals aussi.
Dans les festivals, tout ça, où d'un seul coup, si tu veux, les gens étaient toujours très surpris bon, des thématiques qu'on abordait. Hein. Il y en a qui gueulaient, il y en a qui n'étaient pas contents, d'autres qui étaient très contents, qui nous soutenaient et autres. Donc c'était ça aussi qui était intéressant, ces interactions avec le public, pas simplement dans la rencontre toute simple ou amicale, mais aussi dans l'échange intellectuel. C'était, vu les thèmes abordés, c'est ça qui nous intéressait aussi, d'être dans cette relation d'échange. Et des fois on n'était pas d'accord, il fallait argumenter ou expliquer pourquoi on avait cette démarche. Alors il y en a, c'était complètement fermé, comme on dit, on ne fait pas de pédagogie, nous on ne fait que poser des questions. Hein. De toute façon, au spectacle, on n'est pas là en train de dire une vérité, loin de là.
Et est-ce qu'aujourd'hui le théâtre il est encore mouvant ou il est fixe, il est uniquement chez vous ?
Eh ben, justement là, depuis quelques années, on a notre petit chapiteau qui est installé en permanence chez nous, donc, ce qui nous permet de faire une programmation chez nous de nos spectacles régulièrement, généralement pendant les petites vacances ou les grandes vacances, donc comme cet été. Et après, ben, on continue à voyager quand même de temps en temps pour aller jouer. Bon,
puis on a des gosses. Donc ça, c'est un peu pénible.
On est un petit peu moins mouvant de, voilà. de ce fait-là. On tourne un peu plus localement, on va dire.
D'accord.
Mais souvent dans les écoles, voilà, dans la Nièvre ou en Bourgogne, voilà.
Et donc cet été, vous restez chez vous, du coup,
voilà.
Pour proposer des spectacles donc, durant tout l'été. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cet événement, nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à l'organiser au commencement? Parce qu'il me semble que ça fait plusieurs années maintenant que...
Ouais, qu'on propose bah, justement du fait qu'on ait notre petits chapiteaux qui sont installés chez nous, on peut proposer une programmation de spectacle. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on propose en fait chaque semaine un spectacle différent, ce qui permet à tout le monde de pouvoir découvrir chaque chose, un spectacle différent chaque semaine. Et donc là, cet été, oui, on va être vraiment là. Depuis tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc,
Donc l'idée aussi de la programmation, c'est que comme c'est les restes en fait, de l'itinérance, on avait si tu veux, jusqu'à 10 spectacles en répertoire, ce qui nous permettait d'alterner, si tu veux, et de garder cet esprit-là qu'on a actuellement avec différents spectacles. Alors, il y a des spectacles plus ou moins anciens, il y a des spectacles... Là, il y a une nouvelle création qui va avoir lieu fin juillet. Et puis, d'essayer d'arriver à montrer aux gens, et puis il y a plein de gamins ou des adultes qui viennent revoir certains spectacles aussi, qu'ils aiment bien ou ils aiment bien le partager, ils amènent d'autres gens avec eux ou d'autres gamins, voilà quoi. Ou des fois, ils ont des excuses, ils amènent voir un spectacle en disant « Ouais, j'ai les voisins, ils sont les gamins, ils voulaient voir le spectacle. » Bon, c'est sympa, on a eu plusieurs cas comme ça où c'était chouette de partager aussi ces moments-là, quoi.
Justement, on va parler de la nouvelle création par la suite, mais est-ce qu'on peut d'abord faire un petit tour des spectacles que vous allez nous présenter, que vous présentez déjà depuis quelques temps? On peut peut-être commencer par Panique au cirque.
Oui. Panique au cirque, spectacle très festif où on est deux parents qui essayent d'endormir leur enfant qui voudrait qu'on lui raconte encore et encore une fois l'histoire des frères Tartellini, donc du cirque Tartellini. Et là, eh bien, on va se retrouver tous en tant que parents. Voilà, c'est ce qui nous arrive tous les jours. Si, il faut aller dormir. Alors, la maman, elle aimerait bien continuer à raconter l'histoire. Et puis là, du coup, ils utilisent les jouets de l'enfant, enfin, notamment ses peluches pour pouvoir faire le cirque. Et puis papa, il aimerait bien aller se coucher, donc il aimerait bien un peu abréger l'histoire, mais ça continue, le petit en demande encore. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa, à partir de 3 ans jusqu'à... ça marche très bien.
Quand on met à partir de 3 ans, c'est-à-dire que c'est visible à partir de 3 ans, mais par exemple, il y a des enfants de 8 ans, 10 ans qui peuvent sans problème voir, ou même des adultes qui vont se retrouver à travers cette histoire.
Quoi. Oui, ça signifie que c'est tout public, quoi.
Exactement.
C'est un public familial, voilà. Ouais, c'est ça qui est sympa, quoi. Ouais.
Ensuite, on a Lupo et Luigi que vous allez présenter aussi.
Oui. Alors celui-là, c'était un spectacle qu'on présentait à la base dans un bus spectacle, et puis maintenant dans notre chapiteau, et puis ailleurs. Ça, c'est une petite histoire de loup. Donc c'est un petit loup qui aimerait bien ne pas forcément rester dans son rôle de loup à devoir chasser les autres animaux, mais j'aimerais bien aussi essayer de les connaître, parler avec eux et peut-être voilà, s'en faire des amis. Et donc on va suivre toute sa petite histoire. Et,
le poney, son frère, en fait, lui est loup, c'est un loup, donc dès qu'il voit un animal, il le mange. Quoi,
clairement, et il lui apprend à chasser.
Et il comprend pas que son frère ou sa sœur, se pensait pas trop si c'est un garçon ou une fille, refuse de les manger, quoi. Parce que lui, il veut parler avec. Et donc ça amène des situations, et à un moment, bon, il décide de partir parce qu'il n'en peut plus de cette approche, en fait, de relation avec les autres, parce qu'il bouffe tout, l'autre. Donc du coup, lui, il décide de partir, mais le problème, c'est qu'il a une image de loup, donc les autres le fuient aussi, quoi. Donc c'est tout le rapport de la thématique sur le rapport qu'est-ce qu'on est, ce que l'on renvoie, comment les autres nous approchent et autres. Et puis un jour, il va rencontrer un petit garçon et là, ça va être la fête pour eux deux. Quoi. Voilà.
Et puis du coup, ça alterne entre marionnettes et chansons blues. Donc généralement, ça marche vraiment bien avec les petits loups.
Oui, vous mélangez des disciplines dans certains des spectacles.
Oh, c'est
oui,
un peu la force.
Oui, ouais, la plupart des spectacles, voilà, c'est
ça. On était connus surtout pour ça à travers le monde, entre guillemets, parce qu'on était beaucoup demandés dans différents festivals internationaux, parce qu'on a cette capacité, en fait, de mélanger les formes pour raconter les histoires. Et c'est vrai que quand les gens sortent du spectacle, c'est fluide et tu vois, ça les surprend, alors que généralement on a une thématique, comédien,
oui.
marionnette, alors que des fois, dans certains spectacles, on va alterner le comédien, marionnette, théâtre d'ombre, chanson, et ainsi de suite.
Quoi. Voilà, là vous vous restreignez pas à un seul domaine.
Non, jamais, non.
Et donc ensuite, pour poursuivre avec les spectacles, on aura Histoire à croquer.
Oui, ça c'est du théâtre d'ombre. Donc déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on juste avant le spectacle, on fait une petite présentation pour essayer de découvrir un peu l'ombre ensemble avec les enfants et les adultes, pour voir un peu comment ça marche. Et puis après, en fait, on fait trois petites histoires avec des techniques d'ombre un peu différentes. Et voilà, ça marche bien aussi. Donc c'est aussi à partir de 3 ans, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, visible.
Pour tout le monde.
Oui, exactement.
Et avant de parler de la nouvelle création de cette année, on va faire un point sur le spectacle Anoki.
Oui, donc Anoki, ça c'était notre dernière création d'avant. Donc c'est l'histoire d'une famille nord-amérindienne qui vient s'installer dans un pays de nos contrées, on ne dit pas forcément où. Et on va suivre en fait l'histoire de la jeune fille qui aura un petit peu du mal à s'intégrer à l'école, voilà, du fait de ses origines et puis surtout du fait qu'elle ne parle pas la langue, etc., du pays. Et on va voir en fait petit à petit comment des événements vont faire qu'elle va réussir à s'intégrer.
Et que les autres l'intègrent aussi. C'est voilà. Ça aussi la difficulté quand on est une personne entre guillemets étrangère qui arrive dans on a tendance à bouleverser en fait l'ordre social entre guillemets ou les relations entre les gens. Et c'est vrai qu'on a souvent des images des Indiens d'Amérique du Nord où on les tue, tu vois, c'est toutes les imageries qu'on peut avoir des westerns de ce qui s'est passé réellement aussi, hein. Voilà quoi. Et donc c'est tout ce rapport d'essayer de mettre en lumière en fait la difficulté pour ces personnes en fait d'intégrer parfois un pays.
Et que finalement après donc on parle beaucoup de la culture nord-amérindienne et ça ouvre aussi souvent après les enfants ont plein de questions sur justement cette culture qu'on connaît pas forcément toujours bien et tout le rapport à la nature et à l'environnement, enfin le rapport qu'ils ont avec la nature aussi, qui est très important et qui, dans l'histoire, va aussi enrichir beaucoup les rapports entre le mélange de ces deux cultures qui va s'effectuer et
dire
qui va devenir
une force. Peut apporter aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'il peut apporter une autre ouverture plutôt que d'être là, rester dans ces starting blocks en disant on ne bouge pas, on reste là, on est là, et puis d'un seul coup, cette famille va provoquer un bouleversement au niveau de ce village et, entre guillemets, sauver le village d'un événement important, quoi.
Et de ce que vous me dites un peu depuis le début, j'ai l'impression que dans chacun de vos spectacles, il y a quand même une histoire de fond. Mm-hmm. Et c'est mis en scène avec le théâtre.
Il y a toujours des thématiques, effectivement, qu'on veut défendre à travers les spectacles. Ça, c'est oui. c'est fondamental.
Important. Après, tu racontes pas des histoires pour raconter des histoires. Mm-hmm. Voilà. Après, ce qui nous importe aussi, c'est tout ce qui nous entoure, hein, les phénomènes de société. Regardez en ce moment l'actualité, c'est un peu anxiogène quand même.
C'est sûr.
Hein, donc tu dis à un moment, est-ce qu'on peut au moins poser des questions sur certaines situations, ou comment on peut le vivre, qu'est-ce qui peut aussi dépasser ces situations où on est dans un système où on nous ramène sans regard différent, quoi, parce qu'on nous apporte de l'anxiété en permanence, et puis d'un seul coup tu te dis mais qu'est-ce que je vis là, j'ai l'impression, encore il y a beaucoup de gens qui se posent pas cette question là, qui prennent ça comme argent comptant, puis d'un seul coup on se dit le théâtre, est-ce qu'il peut apporter une ouverture plutôt qu'un renfermement sur soi-même. C'est ce qu'on vit actuellement dans cette société.
L'ouverture vers un autre point de vue aussi.
Oui, vers un autre point de vue, vers un autre regard sur soi ou sur les autres aussi, ça c'est important. Plutôt que d'être là, d'être bombardé par des informations négatives permanentes où d'un seul coup ça provoque en fait un enfermement sur soi, une peur de l'autre.
Et justement, dans le spectacle Anoki, donc, on l'ouvre à partir de 7 ans, on va dire, mais c'est vraiment... si vous êtes même juste un adulte qui a envie de voyager.
C'est pas du jeune public, c'est pas que du jeune public. C'est-à-dire, comme on dit souvent, je me rappelle toujours d'un marionnettiste qui est venu voir différents spectacles de nous, un vieux monsieur très connu. Et la réflexion, c'est de dire que ça restait populaire et intelligent. Pour moi, c'était quelque chose de très très fort de pouvoir dire, si tu veux, que ça reste intelligent et populaire. On n'est pas simplement dans l'excellence, intellectuelle, entre guillemets, quoi, et dire que c'est pas accessible à tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est le principe de dire, si tu veux, même si on aborde des thématiques qui sont parfois un peu complexes, on essaie de les rendre abordables, et non pas bêtement, mais en essayant justement de grandir les gens. C'est-à-dire que quand tu vois un spectacle, généralement, c'est prétentieux de notre part, mais d'essayer d'arriver en fait à permettre aux gens de donner des ouvertures différentes et des questionnements sur leur vie ou sur la vie en société ou sur tout ça, quoi.
Voilà. Et aussi à travers les émotions du coup qu'ils vont pouvoir ressentir pendant le spectacle.
Je me disais par exemple, il y a des gens qui sont venus voir les spectacles. Anoki, ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, qu'on l'a créé. Ce qui était drôle, c'était les réactions des gens. Ce que j'aime bien aussi après les spectacles, c'est tous ces rapports d'échange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont éclater de rire, d'autres qui vont se sentir attaqués, entre guillemets, ou bouleversés. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est ces rapports d'échange, tu vois, qui sont très très forts. On a eu des gens, par exemple, qui se retrouvaient dans cette situation-là aussi, parce qu'ils étaient discriminés du fait de leur taille, du fait de leur poids, du fait de leur gueule, du fait de je sais pas quoi. Non, mais voilà.
Ouais.
Tu vois, on dit, on est dans un système, en fait, où les a priori sont très forts. Et d'un seul coup, si tu veux se retrouver discriminé, c'est vraiment des situations qui sont parfois très difficiles à vivre et très complexes à aborder aussi.
Bah c'est chouette du coup parce que vos spectacles ils permettent d'être confrontés à des sujets d'actualité ou à des sujets un peu plus sensibles, mais sans pour autant que ce soit anxiogène, quoi.
Non, tout à fait, c'est l'inverse même. Ouais. On en rigole, même des situations dramatiques qu'on aborde parfois dans les spectacles, tu ressors pas complètement défoncé, déprimé ou autre. Non, au contraire. Comme je dis, c'est une question d'accompagner les gens ou essayer de faire en sorte qu'ils puissent se dépasser aussi. C'est comme je dis, il y a des gens qui sortent du spectacle comme Anoki ou d'autres spectacles, qui disent qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois, de respirer, sortir,
d'ouvrir les possibles,
d'être là, si tu veux, d'un seul coup, on se sent léger, tu vois, on vient de passer une heure dix à travers un spectacle, et puis d'un seul coup, on a oublié notre quotidien, on a oublié, ce qu'on avait vécu auparavant, quoi, voilà.
Ça permet aux spectateurs de repartir le cœur un peu plus léger.
Oui, bien sûr.
Puis enrichi de quelque chose.
Oui,
et
d'apprendre des nouvelles choses.
Voilà,
aussi.
Et puis dans Anoki, justement, on voulait revenir sur pas une tradition, mais c'est vrai que dans pas mal d'anciens spectacles, mais vraiment anciens, on partait d'une culture. Par exemple, il y avait la culture mongole, on avait fait le spectacle Chagam Morin, etc. Là, on voulait reprendre un petit peu. Enfin, moi, j'avais envie de revenir vers ce trajet-là, de s'enrichir d'une culture et après de la redonner pour renforcer une histoire.
Une thématique, simplement. C'est-à-dire, voilà. On avait travaillé sur le Japon, sur la Chine, sur la Mongolie, le Canada avec les Inuits aussi. Il y a eu toute une phase de travail, si tu veux, qui a été faite autour de différentes cultures, comme sur les Inuits. J'ai eu la chance, en fait, j'ai travaillé pas mal au Canada, je jouais à Montréal et puis dans d'autres villes. Et à un moment, j'ai rencontré un gars qui collectait les histoires inuites.
C'est-à-dire la culture, la tradition orale, on va dire.
Parce qu'en fait, les enfants inuits étaient placés systématiquement dans les bonnes familles canadiennes par souci d'intégration, comme ça s'est passé en Australie, comme ça s'est passé dans plein de pays.
Pendant toute une
période. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gamins, à 15-16 ans, se suicidaient. Il y avait un taux de suicide, d'alcool, de drogue, tout ça. Donc, ils ont fait marche en arrière, mais sauf que le peu d'inuits qui restait, si tu veux... Il n'y avait plus de tradition, il n'y avait pas de tradition d'écriture, c'était surtout une tradition orale. Et donc, du coup, cette personne, je l'ai croisée et puis je suis parti.
C'est sauver la culture.
Ouais,
quoi,
sauver la culture pour essayer de restituer au niveau des gamins, si tu veux, leur culture et autres. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie d'un de ces voyages, si tu veux, où on allait auditionner les gens sur leur tradition, tout ça. Et puis, bon, je n'ai pas pu rester tout le temps parce que ça durait un certain temps. Et puis, à un moment, je suis revenu en France, je me suis dit, mince, j'ai toute une matière vachement intéressante, je vais écrire un spectacle, tu vois, on va écrire un spectacle. On a écrit ce spectacle, et puis après, on est retourné au Canada pour le jouer. Alors, les gens au Canada, ils disent, ouais, il veut encore nous donner des leçons sur l'État canadien. Non, moi, je suis resté sur la culture, sur le rapport de culture. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été sidérés de voir la précision du travail qu'on avait fait, si tu veux. Donc je me suis redocumenté aussi, on a retravaillé là-dessus. Et après, une fois qu'ils ont vu le spectacle, dont la personne là-bas, on est parti faire une tournée chez les Inuits. Mmh. Et c'était vraiment génial, quoi, tu vois. Oui. Donc j'aimais bien tous ces rapports, en fait, de culture, de confrontation de culture, de restitution aussi. C'était plutôt dans l'idée de dire aussi que là, on est dans une mondialisation complète, hein, où là, d'un seul coup, toi, tu vas penser pareil qu'un Américain ou qu'un Japonais, et dire qu'en fait, le fondement de ces sociétés était fait de cultures différentes, et dire qu'à un moment, leur point de vue nous apportait un regard différent sur notre société aussi.
Et justement, qu'est-ce qui vous inspire pour créer tous vos spectacles ?
Bah, nos enfants, ce qui nous environne.
L'actualité aussi. Alors là, dernièrement, on était quand même assez aussi préoccupés par tout ce qui était en jeu sur l'environnement, le climat, enfin la nature, etc. Le devenir, en fait, de tout ça. Donc, à chaque fois, on retrouve cette thématique dans les spectacles, mais voilà, à travers d'autres
thématiques. C'est pas obligatoirement direct, oui, voilà, ça amène des questionnements aussi là-dessus, quoi.
C'est important, quoi, pour nous de l'évoquer. On avait aussi donc cette histoire de s'inspirer aussi beaucoup des cultures d'autres pays.
Et après, il y a d'autres choses, comme par exemple transmission père-fils ou parents-enfants, qui sont intéressantes aussi, si tu veux. Qu'est-ce qu'on a nos gamins? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Qu'est-ce qu'on partage? Bon, il y a des thématiques de spectacle, si tu veux, qui amènent aussi ce rapport, mais toujours dans un rapport ludique, hein, pas dans un rapport purement... je vois, par exemple, pour Topolino, c'est la transmission père-fils à travers l'univers du cirque, tu vois. Bon, là, on va pas le jouer, mais on va le reprendre peut-être plus tard.
Et cette année, il y a une nouvelle création qui sera présentée, c'est À l'abordage Lily. Mm-hmm. Donc, de quoi ça parle et puis qu'est-ce qui vous a inspiré, du coup, pour...
Ça parle de rien. Pour une fois, on va aborder rien du tout, voilà. On a marre de ces intellos, là.
On a marre qu'il y ait toujours un message derrière.
Oh, c'est chiant. Mais c'est pas obligatoirement des messages. Comme je dis, c'est pas obligatoirement des messages. Oui. C'est plutôt des questionnements.
Oui.
On n'a pas de réponse à donner. On a simplement à soulever les questions et à permettre aux gens, en fait, de ressortir avec des questionnements. Alors, c'est des fois des choses simples, des fois c'est... voilà, c'est des petits... c'est comme une fois, je joue un spectacle et puis il y a une dame qui me vient, bien, c'est magnifique cette thématique. Moi, j'avais pas vu ça du tout, tu vois. J'avais écrit le spectacle, mais j'avais pas perçu ça. Et puis ça m'a vachement apporté, en fait, par la suite, parce que justement, ça m'a renforcé cette idée-là, quoi. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est tous ces regards différents sur le travail, sur notre approche. On n'a pas la science infuse, hein, loin de là.
Peut-être que chaque spectateur a une vision et une interprétation différente.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ton vécu est différent d'une autre. Hein, je veux dire, si on n'a pas de comparaison à faire, mais moi j'ai vécu des choses, toi tu en vis d'autres, Nadège en vit d'autres, Tina a aussi, ma fille hein, qui est là, qui vit aussi d'autres choses, et chacun apporte son regard sur les choses, d'accord, en fonction de son environnement social, en fonction de ses connaissances, en fonction de tout ça, quoi.
Et du coup, pour à l'abordage Lily, de quoi
parle-t-on ? Oh, mais il n'y a rien,
Ouais, ça aborde plein de choses à travers une petite histoire assez, enfin, toute simple d'une petite souris.
Qui paraît toute simple.
Oui. D'une petite souris qui voudrait toujours aller aider les autres et puis vivre plein d'aventures. Mais voilà, toujours tournée vers les autres et puis... Et aussi tournée vers la nature, parce qu'elle aimerait bien protéger. Ouais. Voilà, c'est son leitmotiv, protéger la nature et défendre les autres animaux. Voilà, à travers cette force qu'elle a, ça peut donner envie aux autres, voilà, d'avoir cette force là aussi. Ça, on aborde aussi la thématique, comme on en revient du rapport des parents vis-à-vis des enfants, de la transmission, qu'est-ce qu'on leur transmet, puis comment les enfants aussi peuvent se construire en dépassant parfois les
interdits des parents, par exemple.
Les interdits ou les bases qu'ont pu donner les parents et comment ils dépassent ça, mais qu'on va le dépasser ensemble et ce que ça peut grandir aussi les parents ou la famille en général, dans les aventures qu'ils vont vivre ensemble.
Ça provoque des bouleversements, en fait, par son histoire ou par son envie ou sa passion, d'être tourné tout le temps vers les autres, d'avoir envie, si tu veux, de partager ou d'aider. D'un seul coup, elle va embarquer tout le monde, en fait. C'est ça qui est tout le monde. Son environnement,
son entourage.
Son entourage, quoi. Et c'est ça qui est intéressant de dire à un moment que, comme toi ou comme moi, ou toi, tu as passion par la radio ou le journalisme, tu as envie d'aborder des thématiques, tu as envie d'aborder des sujets, tu as envie de défendre des choses pour permettre aux gens, en fait, de pouvoir le vivre ou le partager ou, tu comprends, de répondre à certaines choses, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et de dire qu'à un moment, l'être humain, là on parle d'une petite souris, mais c'est aussi une métaphore, hein, c'est toujours un système de métaphore. C'est plus facile de faire parler une souris que de faire parler un adulte, tu vois, surtout quand on veut essayer d'aborder certaines thématiques. Mmh. Des fois les reliefs sont plus intéressants, comme avec une marionnette, ou comme avec, là il n'y a pas de marionnette, hein, mais comme avec une marionnette, on va pouvoir dire des choses incroyables à une marionnette qu'on ne pourrait pas dire... avec un comédien qui joue un personnage, quoi. Tu comprends ?
Ça aussi. Permet, voilà,
Ça permet des raccourcis ou des mises en relief différentes, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil, la petite Lily, ça va être...
Elle rêve d'être une pirate qui va défendre tout le monde, qui va...
Et en pensant être aussi dans le chemin de son papa, tu vois, qui a disparu. Et du coup, elle en a un souvenir très positif, tu vois, et du coup, elle cherche aussi à reconstituer l'histoire de son papa, ou d'être pareil que lui, ou... Et puis avec tous les interdits de la maman, avec tous les... Tu vois, c'est son petit frère qui est en fauteuil roulant parce qu'il y a eu un problème. Et puis, comment lui s'intègre aussi à travers tout ça, c'est un rapport aussi bien social... que une projection à travers notre société, quoi.
Et vous créez tout de A à Z, l'écriture, la mise en scène, les costumes, les décors?
Tout à fait. Oui, à chaque fois, là, une création, c'est vraiment de bout en bout, donc ça part pas forcément... Enfin, là, on est parti, en tout cas pour cette création-là, on part de l'écriture de l'histoire, donc du texte. Et puis ensuite, ça va être répétition avec la mise en scène petit à petit.
Si on amène les éléments ou pas.
Voilà.
Alors on démarre, hein, donc ça sera fini à la fin du mois de juillet quand on va jouer. Ce que j'aime bien aussi, c'est le rapport de simplicité, c'est-à-dire d'être dans un rapport de simplicité où l'imaginaire prend le dessus.
Voilà.
On arrête, disons, la plupart des spectacles, on a des grosses machines. Hein. Auparavant, c'était énorme, hein. C'était des scénographies.
Incroyable, oui. Des gros.
12-15 mètres de large, grand décor.
Costumes, parfois
des effets visuels impressionnants. Et puis d'un seul coup, dire à un moment, est-ce qu'on ne peut pas revenir à quelque chose de plus simple, tu vois, de plus épuré, pour laisser place aussi à l'imaginaire. C'est ça que je trouve important aussi. Mm-hmm. Et dire qu'à un moment, il n'y a pas que le matérialisme, il y a aussi ce qu'on a dans la tête et comment on peut se projeter. C'est pas c'est joli, non, on s'en fout.
Oui, ouais, d'être un peu aussi voilà, en décalage par rapport à... Par exemple, même avec des écrans ou quoi, de toute façon, voilà, on a tout qui nous vient dans les yeux, dans les oreilles, etc. Là, on se dit, on part vraiment de notre histoire. Alors, il y aura sûrement voilà, musique, etc. Et c'est comment adapter finalement cette mise en scène pour que l'histoire est là, etc., les émotions, mais c'est en fait ensuite vraiment l'imaginaire qui fait le tout, quoi.
Comme tu disais tout à l'heure, les écrans, les smartphones, tout ce merdier-là, ont tendance à nous bombarder d'informations, donc on ingère. Et qu'est-ce qu'on restitue ? Ça aussi, on peut se poser la question par rapport à tous ces outils. Donc c'est ce rapport aussi de dire à un moment, si on enlève tout ça, si on enlève tout le superflu, est-ce que notre corps est encore capable ou notre tête est encore capable, si tu veux,
et quand on propose... Et c'est ce qu'on se questionne aussi par rapport à nos propres enfants, d'ailleurs, et donc les enfants en général, voilà. Est-ce qu'on leur laisse la place dans notre société actuelle de pouvoir, voilà, que l'imaginaire fasse son chemin et continue à être sollicité, on va dire.
Oui, qui en est-nous et comment... Est-ce qu'on est un modèle de truc ou est-ce qu'on est nous-mêmes ? Et comme ce personnage de Lily... Elle cherche à être elle-même et non pas un modèle. Même si elle part dans l'idée de son papa, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire à un moment, elle va dépasser cette image-là de son père pour aller plus loin encore et trouver sa propre identité et ses propres motivations de vie.
Voilà, ça permet de remettre un peu le cerveau en marche.
C'est quoi un cerveau ? À quoi ça sert ?
Et l'imagination.
Bon, maintenant que vous nous avez dit tout ça, je pense qu'il y en a plus d'un que ça a motivé pour venir vous voir cet été. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les infos pratiques, où ça se déroule, le tarif, comment est-ce qu'il faut réserver,
alors,
toutes ces choses ?
Donc, ce sera donc toutes les semaines pratiquement du 10 juillet jusqu'au 24 août. Donc, chaque semaine du mercredi au dimanche. Donc, généralement, tu seras à chaque fois à 10h30 le matin. Comme ça, on est bien, on est au frais dans le chapiteau.
Oui.
À part pour Anoki, comme c'est un spectacle aussi qui est vraiment conseillé pour les adultes aussi. Donc là, ce sera juste le vendredi soir et le samedi soir du 26 et 27 juillet à 20h. Donc, c'est chez nous, au Théâtre du Risorius, donc 11 route de Villars à Sainte-Paris-le-Châtel, Moiry. Le tarif est de 7 euros pour tout le monde. Et la réservation est tout à fait conseillée.
Et recommandée.
Voilà. Donc, soit vous nous appelez, je ne sais pas si je dois dire
le... Oui, vous pouvez dire le numéro.
Au 06 80 06 31 94. On est aussi sur Facebook, sur le Théâtre du Risorius. On a une page Facebook. Et vous pourrez aussi retrouver toutes les infos et vous pouvez aussi réserver sur notre site internet www.risorius.org.
Bah super, merci beaucoup. On espère que les gens viendront vous voir nombreux cet été.
Merci à vous en tout cas de nous avoir reçus et j'espère à bientôt.
Oui, c'est sûr, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.